France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Quand on pense aujourd'hui au mont Kilimandjaro en Tanzanie, on pense immédiatement aux neiges éternelles qui habillent son sommet. Ce que l'on sait peu, c'est qu'en 1849 et pendant plus de 10 ans, l'existence de ces neiges a fait l'objet d'une vive controverse en Grande-Bretagne, mettant aux prises gentlemen savants et missionnaires enthousiastes, savants de terrain et savants de cabinet. Que nous raconte ce débat sur l'histoire de la géographie et plus globalement sur l'histoire des sciences? Science Chrono s'aventure aujourd'hui sur le terrain plus glissant qu'on ne le pensait des neiges du Kilimandjaro. Et bonjour Delphine Froment.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine. Vous avez soutenu une thèse en 2021 intitulée « La fabrique du Kilimandjaro, savoir géographique, représentation et construction impériale en Afrique de l'Est au XIXe siècle » qui fera prochainement l'objet d'une parution aux éditions de la Sorbonne. Merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui. On salue au passage nos amis du magazine Science et Avenir, parce que c'est en lisant le numéro d'avril 2025 dans lequel vous avez fait un article qu'on est tombé sur cette histoire et qu'on s'est dit « Ah bah voilà ». On va creuser ce sujet avec vous. Merci encore. Merci. Donc, avant de nous lancer dans le récit de cette controverse autour des neiges du Kilimandjaro, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous irons visiter l'exposition Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire, qui se tient depuis avril à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Et nous nous demanderons, alors que le territoire palestinien fait l'objet d'une destruction systématique par l'armée israélienne, ce que ce patrimoine archéologique nous dit de la longue et riche histoire de la bande de Gaza. Mais avant cela, revenons à notre histoire des sciences et à cette controverse qui opposa ceux qui disaient que le sommet du Kilimandjaro était enneigé et ceux qui s'opposaient à cette idée. Delphine Froment, avant de présenter toute la galerie de personnages, et elle est importante en présence dans ce débat autour des neiges du Kilimandjaro, une première question. Qu'est-ce qu'on savait dans les années 1840 de l'Afrique de l'Est en Europe ?
Eh bien, en fait, pas grand-chose. Il n'y a pas de mouvement d'exploration qui a commencé dans les années 1830-1840. Ce qu'on sait surtout de l'Afrique de l'Est, c'est des choses qu'on tire de textes souvent assez anciens, comme la géographie de Ptolémée, donc 2e siècle après Jésus-Christ, la géographie médiévale arabe, la géographie portugaise aussi, parce que les Portugais ont été présents dans la région à l'époque moderne, puis ils ont été chassés, repoussés au sud, vers le Mozambique. Et donc, en fait, au 19e siècle, en Afrique de l'Est, il n'y a pas beaucoup d'Européens. Il y en a quelques-uns qui sont... surtout, en fait, au niveau de Zanzibar, un archipel qui est au large de la côte est africaine, ce sont surtout des diplomates, des commerçants, des militaires. Mais en fait, sur la côte est africaine, il n'y a pas grand monde. Et les premiers qui vont s'installer sur la côte est africaine, ce sont des missionnaires de la Church Missionary Society, qui sont... donc il y a Ludwig Krapf, qui est le premier à s'installer en 1844, vers Mombasa, et qui va être rejoint en 1846 par Johannes Rebmann. Et tous les deux, ils ont comme grand projet l'idée de mettre en place une chaîne de stations missionnaires qui... qui permettrait de relier en fait l'océan Indien et l'océan Atlantique avec des stations qui seraient posées à peu près tous les 100 km avec 6 missionnaires par station. Et l'idée, c'est comme ça, en quelques années, ils pensent pouvoir évangéliser l'entièreté du continent africain.
C'est comme des gares finalement, sauf que c'est remplacé par des stations de missionnaires. Exactement. Alors ce Johannes Rebmann, il est central dans cette histoire de la description des neiges du Kilimandjaro, parce que c'est lui le premier qui fait cette description de ces neiges, je le cite. Il dit « Les montagnes de Jaga se dévoilaient progressivement à notre vue. Vers 10h du matin, j'observais quelque chose d'extrêmement blanc au sommet d'une haute montagne. Je crus d'abord qu'il s'agissait d'un nuage très blanc, ce que mon guide me confirma également. Mais ayant fait quelques pas supplémentaires, cette explication ne pouvait plus me satisfaire. Je demandai une seconde fois à mon guide si cette chose blanche était un nuage. À peine eus-je entendu sa réponse que mon esprit reconnut avec délice ce bon vieux phénomène si bien connu en Europe. » La neige. Alors il faut dire quelque chose, c'est que voilà, cette description des neiges au sommet du Kilimandjaro, c'est une description absolument pas scientifique, c'est pas l'objet de cette description. Il faut aussi souligner un autre détail qui aura son importance dans cette histoire, c'est que Johannes Rebmann était myope.
Absolument. Il est myope, il le dit un peu après, il n'a pas été capable de voir un rhinocéros qu'il menaçait à 3 mètres, etc. Il y a autre chose qu'il dit à un autre moment dans son récit, c'est qu'il est parti seulement avec sa Bible et son parapluie. Donc en fait, c'est vraiment un homme qui est sur le terrain, certes qui voit des paysages, qui les décrit, mais qui ne part pas du tout avec l'idée de pouvoir apporter des connaissances géographiques. Il le dira d'ailleurs un peu plus tard à sa famille dans une lettre, il leur dit « mais moi je veux pas du tout faire œuvre de géographe en fait ». Donc le fait qu'il ait ces pratiques-là, c'est précisément ça qui va être critiqué par certains en Europe.
C'est une sorte de touriste de Dieu, on peut le dire comme ça. Et ce qui est intéressant dans cette description, c'est que ça a l'air bon enfant, enthousiaste comme ça, mais c'est une bombe pour plein de savants qui en Europe vont recevoir cette information là. Quel écho trouve dans un premier temps cette description faite par Johannes Remmann des neiges du Kilimandjaro?
Alors en fait, c'est une bombe, mais c'est une bombe un peu à retardement, c'est-à-dire que la manière dont ça va être diffusé qui va en faire une bombe. Johannes Rebmann, il écrit son rapport, il l'envoie à sa maison mère à Londres, qui va le publier dans un journal très anonyme, très confidentiel, qui est le Church Missionary Intelligencer, qui est prévu vraiment que pour les gens qui financent la mission, mais c'est pas du tout pour un grand public. Et c'est quelqu'un qui va reprendre ce récit, qui va le publier dans un journal à beaucoup plus forte audience, et c'est la manière dont ça va être présenté, on va en parler, qui fait que ça va être la bombe va éclater. Quoi.
Alors on en vient du coup à notre archive du jour. En Europe, vous le disiez à cette époque, des géographes veulent aussi partir explorer l'Afrique de l'Est, non plus pour seulement évangéliser ces territoires, mais pour trouver la source du Nil. Parmi ceux-là, on trouve celui par qui finalement Johannes Remmann connaît une notoriété, c'est ce Charles Tilston Beck de la Royal Geographical Society au printemps 1849. Celui-ci est aux prémices d'une grande expédition. Écoutez un extrait de son article paru dans la revue The Athenaeum le 2 avril 1849, un article intitulé « Montagnes enneigées en Afrique ». La lecture vous est faite par Laurent Blanpin.
L'annonce de la découverte par M. Rebmann, révérend de la Church Missionary Society, d'une haute montagne couverte de neige éternelle en Afrique de l'Est, sur le même parallèle que Mombasa, soit à environ 4 degrés au sud de l'équateur, m'incite à vous faire part de quelques observations à ce sujet. Il y a plusieurs années, M. Cooley, un géographe, écrivait « La montagne la plus célèbre d'Afrique de l'Est est le Kilimandjaro, et c'est la plus haute que l'on croise quand on se rend dans le pays du Monomwezi ». Je puis affirmer que M. Rebmann appelle quant à lui la montagne qu'il a découverte Kilimandjaro. Il s'agit donc de la même fameuse montagne que celle de M. Cooley. Son altitude ne peut être inférieure à 6000 mètres, ce qui est beaucoup plus élevé que tout ce que nous connaissons en Afrique de l'Est. Par ailleurs, le Kilimandjaro est évidemment la montagne blanche dont parle M. Dabadi et qui aurait été décrite par Nicla, le roi d'un pays situé sous les 4e et 5e degrés de latitude nord. « Dans ma jeunesse, dit Nicla, j'ai voyagé très loin vers le sud, et j'y ai trouvé des hommes à la peau blanche, comme les Turcs. J'y ai vu l'origine du Nil blanc, qui tire son nom d'une très grande montagne dont les sommets sont entièrement blancs et d'où la rivière prend sa source. » Tous ces éléments portent à croire que le Nil blanc prend sa source au mont Kilimandjaro, dans le pays du Monomwezi. J'ai souvent expliqué qu'en Swahili, la langue parlée sur la côte est africaine, mono signifie roi et moesi signifie lune. Et que c'est de ce peuple que Ptolémée a tiré son nom de montagne de la lune, où se trouveraient les sources du Nil, le fleuve étant alimenté par les neiges de ces montagnes. 1700 ans plus tard, il semble donc plus que probable que les paroles du géographe alexandrin se révèlent exactes à la lettre près. Dès lors, il y a toutes les raisons d'espérer une issue favorable à l'expédition que le docteur Białoblotski est en train d'entreprendre en Afrique de l'Est.
Voilà, Delphine Froment, c'est un texte qui est extrêmement dense. Il y a beaucoup d'informations qu'on va essayer de décortiquer. Ce texte de Charles Tilston Beck aussi traduit une forme d'enthousiasme et d'impatience à se rendre sur place. Déjà, poser une première question, pourquoi c'est si important de trouver la source du Nil d'un point de vue même de l'imaginaire de ces savants-là?
En fait, On ne sait pas où est la source du Nil au milieu du 19e siècle, et c'est une question millénaire, multimillénaire. En fait, si vous allez à Rome, Piazza Navona, vous avez la fontaine des quatre fleuves. Si vous y allez, vous verrez que ça représente plusieurs fleuves du monde, dont le Nil. Et le Nil a son, a son visage qui est caché par un voile. Et ça, c'est une statue de la Renaissance du Bernin, je crois, et qui montre ce mystère que représente encore donc au milieu du 19e siècle les sources du Nil. Et celui qui résoudra cette question il gagnera énormément de prestige, en fait. Donc,
Il y a aussi des noms qui émergent, des noms propres, des noms de personnages qui émergent dans cette lecture que nous faisait à l'instant Laurent Blanpin. Donc, ce nom du docteur Bialoblotsky. Qui était ce Friedrich Bialoblotsky avec qui Beck fomentait cette expédition?
En fait, c'est un missionnaire, lui aussi, d'ailleurs, qui essaye de se faire un petit nom dans les cercles géographiques, qui du coup se rapproche de Beck à Londres, et les deux s'associent pour organiser cette expédition. Et Bialoblotsky, en fait, donc Beck va l'organiser depuis Londres, s'occuper de toute la logistique, et c'est Bialoblotsky qui va aller sur le terrain. Et Bialoblotsky donc est en route, hein, il est à Mascate au moment où Beck écrit cet article, et donc il va arriver sur la côte est africaine, et en fait il n'arrivera pas à aller plus loin, il sera bloqué pour différentes raisons qui seraient trop longues à expliquer, je pense ici. Mais
finalement, cet article aussi, il a valeur d'appel à financement d'une certaine façon. C'est pour engranger de l'argent qu'il vend son projet d'expédition avec Bialoblotsky. Qu'est-ce qui se dit aussi en filigrane? Parce que ce texte, c'est vraiment ce texte qui porte en germe la controverse qui va naître, et il parle d'un autre nom, il dit Couli. Alors, qui est ce Couli qui, lui, va peut-être avoir un rôle, enfin, va avoir un rôle important dans cette controverse?
Couli, c'est un petit peu le rival de Beck, finalement. Ils ont, à 5 ans près, le même âge. Ils sont nés 1795 pour Couli, 1800 pour Beck. Ils ont la même carrière devant eux. Derrière eux, pardon. Ils sont tous les deux très reconnus par la Royal Geographical Society à Londres, dans les cercles géographiques. Ils sont tous les deux un peu spécialistes de l'Afrique de l'Est. Et Couli, c'est vraiment un géographe qui maîtrise très bien la géographie arabe, la géographie portugaise dont je parlais, qui a une connaissance de cette géographie est-africaine, et qui... je pense ne supporte pas bien qu'on puisse éventuellement résoudre des mystères à sa place, qui voit très bien que Beck, il a tout intérêt en fait à dire on va trouver la source du Nil, donnez-nous des financements parce qu'on a trouvé une montagne enneigée, parce que le Kilimandjaro n'est pas du tout la source du Nil, il est un petit peu agacé. En plus, il est cité pour que Beck en fait dise un petit peu n'importe quoi finalement, donc il apprécie pas trop, et donc il va réagir justement et faire une réponse un petit peu terme à terme, point par point, démontrer que ce que dit Beck, c'est un petit peu fumeux, finalement.
Avant d'en venir à cette contre-attaque de Couli, il faut peut-être rappeler l'organisation, tout ça. On a parlé de la Royal Geographical Society de Londres. À cette époque-là, la géographie s'institutionnalise beaucoup. Il y a des sociétés géographiques. La première, je crois, c'est à Paris en 1821, qui prennent de l'ampleur. Ça s'organise comment, globalement, ces sociétés-là? Qui en fait partie? Comment ils fabriquent du savoir géographique, en gros?
Bon, en fait, ces sociétés, elles sont là pour promouvoir l'avancée des connaissances géographiques et faire part à leurs membres, qui sont surtout des notables, des aristocrates, de toutes les nouvelles découvertes européennes. Ces notables, ces aristocrates cultivent un fort entre-soi, sur lequel on reviendra certainement. Mais comment ça se passe concrètement? Elles organisent des conférences, elles donnent des récompenses, elles publient aussi des travaux, elles servent aussi parfois de plateforme de mise en relation des explorateurs, des géographes entre eux. C'est vraiment elles qui institutionnalisent et mettent en valeur et quelque part valident la production de savoir géographique.
Alors on en revient à ce Couli qui est nommé dans le texte de Beck. Pourquoi quels vont être ses contre-arguments? Comment va-t-il contre-attaquer? Et quel discrédit va essayer de porter à la parole de Beck et par extension de Redman?
Alors d'abord, il va s'attaquer à Beck en disant que, par exemple, on l'a entendu dans l'article, il parle des montagnes de la Lune, du Monomoedi, et en fait il dit en swahili aujourd'hui, Monomoedi ça voudrait dire royaume de la Lune, or Ptolémée, presque 2000 ans avant, disait qu'il y avait les montagnes de la Lune, et Couli dit mais vous établissez un continuum linguistique entre 2000 ans, enfin sur quasiment 2000 ans qui peut pas tenir, c'est totalement faux. Et puis en fait, il reproche quelque part à Beck d'avoir pris plein de pièces d'un peu puzzles est-africains et de les avoir remises un peu n'importe comment en utilisant la pièce maîtresse qui serait le Kilimandjaro au prétexte que c'est une montagne enneigée. Alors qu'en fait, il y a plusieurs autres montagnes enneigées en Afrique de l'Est. Maintenant, on le sait. À l'époque, on ne le sait pas effectivement. Mais voilà, donc il se moque un petit peu. Enfin, il contre-attaque Beck par rapport à ça. Et il va aussi s'attaquer ensuite plus directement au dernier témoignage qui est employé par Beck pour valider sa fameuse théorie du Kilimandjaro comme source du Nil. Il va dire, en plus il s'appuie sur un témoignage oculaire d'un missionnaire qui est myope, voilà, qui est parti qu'avec sa Bible et son parapluie. Enfin, en fait, en plus il n'écoute pas ses guides.
Ça, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que je trouve dans cette histoire, c'est que nous, a posteriori, on a toujours tendance à vouloir que ce soit une histoire de David contre Goliath, du gentil innocent qui part décrire les neiges du Kilimandjaro et du méchant savant qui, de son côté, va lui dire non, tu as tort. Il est de très bonne foi et il a de très bons arguments en fait pour dire non, mais il se trompe peut-être parce que justement, là vous le dites, il n'emploie pas d'instrument, il est avec son parapluie seulement et sa Bible, il ne fait aucune mesure, il n'écoute pas, et ça c'est intéressant parce que il n'écoute pas ces gens qui l'accompagnent et qui sont des locaux, et ça a une grande importance. À l'époque, pour les géographes, il faut s'appuyer beaucoup sur les savoirs locaux.
Oui, en tout cas, Couli, lui, qui aime, enfin qui encore une fois lit l'arabe, le parle aussi, et il aime parler avec des informateurs qui pourraient venir à Londres et qui seraient arabes et qui auraient un peu commercé dans la région. Et du coup, il attache une grande importance à ces informateurs locaux. Et Rebman, lui, en fait, il est parti avec une caravane composée de guides et de porteurs qui vivent sur la côte Swahili, qui du coup ne connaissent pas forcément en fait la géographie de l'intérieur et notamment la nature de la neige. Et eux lui disent qu'ils connaissent pas la neige. Et du coup, Rebman en déduit immédiatement, ah bah ils savent pas ce que c'est que la neige, donc c'est pas, enfin ils sont un peu idiots, mais moi je sais que c'est de la neige. Et Couli dit, bah non, s'ils savent pas, enfin on peut pas être au pied d'une montagne et ne pas savoir ce qu'est de la neige. Et donc s'ils disent que c'est pas de la neige, c'est que c'en est pas. Et donc c'est Rebman le myope qui se trompe.
Alors quelles sont les réponses du coup que vont apporter les défenseurs de Rebman et de Beck à Couli, comment ceux qui défendent qu'il y a bien des neiges sur le sommet du Kilimandjaro vont contre-attaquer à nouveau?
En fait, au moment où la controverse éclate, en 1849, Rebman il est retourné deux fois au Kilimandjaro. Et là, il a parlé, non pas avec ses porteurs et guides locaux, mais il a parlé aux populations de Chaga du Kilimandjaro, qui lui ont dit « Oui, en fait, on sait très bien, nous, ce que c'est cette substance, on l'appelle même Kibo, donc c'est ça, c'est comme ça qu'on dit neige. » Et donc, Rebman, déjà, revient, mais son témoignage est publié après, en 1850, en 1851, il revient avec davantage d'informations qui, quelque part, permettent de contre-attaquer l'attaque faite par Couli et qui va en convaincre certains. Parce que justement, là, il est aussi conscient de l'attaque qui a été faite. Enfin, ce sont surtout ceux qui vont éditer son texte à Londres, qui vont un petit peu le reformuler de manière à ce que ça paraisse un petit peu plus scientifique, de manière à ce que le discours réponde en fait, de manière argumentée à Couli. Pardon.
Ce qu'il faut dire, c'est que ça devient une affaire européenne aussi, puisque donc Rebman revient avec de nouvelles preuves de l'existence de ces neiges au sommet du Kilimandjaro. La Société de Géographie à Paris va même prendre fait et cause pour Rebman et Kraft et leur remettre en 1852 la grande médaille d'argent de son prix annuel pour leur récit qui, je cite, confirme pleinement l'existence de la montagne de neige du Kilimandjaro qu'on avait quelque temps mise en doute. Alors là, à nouveau, Couli et la Royal Geographical Society ne s'avouent pas vaincus. On voit aussi tout l'enjeu diplomatique, géopolitique qui se joue dans cette controverse-là. Quelle théorie alternative ils vont proposer pour expliquer que le sommet de cette montagne est quand même blanc?
Oui, en fait, c'est Couli, il s'est trop engagé. Là, en 52, il a déjà trop dit qu'il n'y avait pas de neige en haut du Kilimandjaro, donc il va un petit peu s'entêter. Et il va plutôt aller du côté de ses amis. C'est un peu plus tard, c'est en 1857 que cette théorie va commencer à être élaborée, parce qu'entre-temps, il a écrit beaucoup de choses. Voilà. Et il y a un autre explorateur, missionnaire lui aussi, mais qui a des pratiques scientifiques, qui est David Livingstone, qui est grand héros de l'exploration britannique, qui n'est pas allé au Kilimandjaro, mais qui est allé un petit peu au sud et qui a vu là-bas des montagnes recouvertes de roches dolomitiques, enfin de calcaire dolomitique, de roches de quartz blanc, et il dit en fait peut-être que c'est ça ce qu'il y a en haut du Kilimandjaro, tout simplement c'est pas de la neige, c'est du quartz. Et comme Livingstone est très proche de Cooley, qui est très proche aussi du président de la Royal Geographical Society et d'autres personnes,
Roderick Murchison.
Voilà, absolument. Ils vont mettre un petit peu en avant cette théorie alternative qui honnêtement va pas convaincre grand monde, juste il va y avoir théorie contre autre théorie. Mais à la fin des années 1850, il y a une sorte de statu quo et on ne sait pas vraiment comment on va résoudre ça, en tout cas depuis le cabinet en Europe.
Mais ce qui est intéressant, Delphine Froment, dans cet entêtement à vouloir démontrer le contraire, c'est ce besoin aussi de faire valider ça par des instances scientifiques. Ce David Livingstone, qui est un explorateur reconnu par la Royal Geographical Society, n'a jamais vu le Kilimandjaro, et pourtant on va lui attribuer plus de crédit qu'à Rehman, parce que lui, il sait, il a vu d'autres choses et il a fait finalement des mesures qui étaient scientifiques. Alors ça nous amène à un point important de cette histoire de la découverte et de la description des neiges du Kilimandjaro, c'est cette coexistence, affrontement, débat entre science de cabinet, science de terrain. Est-ce que cette histoire-là, finalement, des neiges du Kilimandjaro, nous met en face de cette confrontation et parfois de ces contradictions entre sciences de cabinet et sciences de terrain?
Oui, en fait, on a souvent opposé justement ces deux types de géographie, géographie de cabinet, géographie de terrain, avec Cooley qui, lui, reste vraiment dans son cabinet, qui compile des informations diverses et variées, anciennes ou récentes, aux hommes de terrain. En réalité, les hommes, les géographes de cabinet s'appuient beaucoup, on vient de le voir, sur les paroles rapportées du terrain, tout en les critiquant. Les hommes de terrain, Rebman ou Livingstone, s'appuient sur la production géographique par ses savants de cabinet. Mais c'est vrai qu'avec la controverse du Kilimandjaro, les missionnaires vont aussi beaucoup mettre en avant cette question du terrain et dire, mais en fait, ils vont renvoyer Cooley à ses études en lui disant, mais vous n'êtes jamais allé sur le terrain, nous, on y est allés. En plus, il se trouve que Rebman et Krapf, ils travaillent au service d'une institution britannique, mais ils sont d'origine germanique. Ils ont été formés au pied des Alpes. Ils disent, en fait, on sait très bien à quoi ressemble une montagne enneigée, alors que le Britannique, là, dans son cabinet, il a jamais vu de la neige, en fait. Donc, donc il y a cette opposition de terrain, du terrain comme argument majeur et argument d'autorité face à une figure d'autorité, mais qui, en fait, là, se trouve complètement décrédibilisée au prétexte que, justement, il n'est jamais sorti de son bureau.
Puis il y a une dimension aussi, on va dire, sociologique, le fait que ces sociétaires de sociétés savantes étaient des gentlemen, et donc il y a un mépris aussi, d'une certaine façon, pour ceux qui ne sont pas du sérail, la volonté de maintenir cet entre-soi dans la production du savoir, elle est forte à ce moment-là.
Elle est assez forte. Alors après, voilà, Livingstone...
C'est l'époque, il faut dire ce qu'il y a, on ne va pas juger ça maintenant. Mais
oui, bien sûr. Et Livingstone a quand même su, lui, se faire sa place à la RGS, dans ses sociétés, il a été reconnu vraiment, mais c'est... En fait, Rebman et Krapf, ils sont inconnus au moment où ils partent, et puis ils ont à nouveau passé pratique savante. Ensuite, ils se font détester par Cooley, et à partir de là, ils peuvent plus intégrer cet entre-soi. Ils y seront quasiment jamais reçus à la société de Londres. Donc voilà, effectivement, il y a aussi un petit peu ces enjeux socio-professionnels qui s'opposent ici.
C'est quand même fou de se dire que cette controverse dure plus de 10 ans. Qu'est-ce qui va mettre un terme définitif à la controverse sur l'existence des neiges du Kilimandjaro?
Eh bien, le retour au terrain, mais pas par ces missionnaires qui, en fait, eux, n'y retournent pas pour différentes raisons, mais par un autre explorateur qui, lui, est un homme du sérail, c'est un aristocrate qui est originaire de Hanovre dans l'espace germanique, von der Decken, qui est accompagné d'un géologue britannique qui est un petit peu le protégé de Murchison, le président de la RGS dont on parlait tout à l'heure, et qui, tous les deux, partent avec des instruments qui font des mesures astronomiques, barométriques, hypsométriques, etc. Et qui reviennent, donc ils y vont en 1861 et en janvier 1862, ils envoient une lettre à la Royal Geographical Society pour leur dire « Oui, le Kilimandjaro est effectivement enneigé. » Et parce qu'ils ont ces pratiques, parce que von der Decken et Thornton sont reconnus de cette société londonienne, là, ça va passer comme une lettre à la poste.
Ce qu'il faut dire, c'est que Roderick Murchison, il n'est pas très bon joueur, parce que dans le discours qu'il va faire pour remettre le prix justement à von der Decken, qui valide l'existence des neiges du Kilimandjaro, il va complètement oublier de citer Rebmann.
Absolument. Bon, il y aura une reconnaissance. Enfin, tout le monde dira oui. Enfin, maintenant, tout le monde dit, et même dans les années 1880, quand il s'agit de reparler de l'exploration du Kilimandjaro, tout le monde dit c'est Rebmann qui l'a vu, qui a dit que c'était une montagne enneigée. Et tout le monde se moque surtout de Cooley en disant, alors lui, par contre, il s'est totalement planté, alors qu'en fait, il n'était pas du tout seul à ne pas croire à ça. Et justement, vous disiez, Murchison ne va pas être très bon joueur. Mmh. Cooley va être encore moins bon joueur, puisque lui ne voudra pas y croire jusqu'à sa mort en 83. Ouais. Il va mourir en...
Il s'est entêté, lui, pour le coup. Alors qu'au début, il était de bonne foi. Après, quand il a refusé vraiment de reconnaître son erreur et son échec. Delphine Froment, on arrive doucement mais sûrement vers la fin de notre discussion. Finalement, cette histoire, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur l'histoire de la géographie, bien sûr, qui devient aussi, au XIXe siècle, on l'a dit, une science de terrain et non plus seulement une science de cabinet, et plus globalement sur l'histoire des sciences?
Alors, sur l'histoire de l'exploration de l'Afrique de l'Est, si vous me permettez, oui. ça va être vraiment une controverse qui va braquer les regards sur l'Afrique de l'Est. Et je disais en début d'émission qu'il n'y a pas beaucoup d'exploration qui a été faite dans les années 1840. En fait, ça va enclencher le mouvement d'exploration pour résoudre la question des sources du Nil et aussi pour savoir si oui ou non il y a des neiges en haut du Kilimandjaro. Mmh. Et ensuite, continuer d'y aller et d'arpenter cette région. Cette controverse en histoire des sciences, comme d'autres controverses, hein, c'est pas la seule, est extrêmement intéressante pour entrer un petit peu dans les coulisses de la production d'un savoir. En général, on s'est longtemps intéressé à l'évolution un peu positive des savoirs, le progrès, en se disant, voilà, on a fait telle découverte, telle autre. Ce qui est intéressant, et je suis absolument pas la première, il y a beaucoup d'historiens avant moi, dont Stephen Chapin et Simon Schaeffer, qui ont travailler en fait sur les histoires des controverses pour un petit peu faire l'histoire des vaincus, ceux qui n'ont pas voulu croire aux découvertes, aux avancées, pour comprendre en fait comment on peut ou pas être convaincu d'une idée et qu'est-ce qui fait qu'on y croit. Et souvent, c'est pas des arguments scientifiques, mais plutôt il y a beaucoup d'enjeux en fait économiques, politiques, socio-professionnels. On en a vu là quelques-uns qui montrent que on croit ou on ne croit pas à une question, à un fait établi qui peut maintenant nous paraître évident, mais justement ces histoires des controverses nous permettent de montrer que rien n'est jamais évident. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, en fait.
Et il y a une dimension extrêmement poétique aussi dans cette histoire, c'est de penser que la neige ne puisse pas exister au sommet d'une montagne. Enfin, c'est vraiment une controverse autour de la neige. Moi, c'est ça que j'ai adoré d'emblée en rentrant dans ce sujet. Et on comprend qu'en tirant un fil, ben voilà, on a toute une histoire des sciences et des savoirs qui se déroule devant nous. Merci beaucoup à vous, Delphine Froment, d'être venue nous raconter cette histoire neigeuse. Ya kwenda majumbani mwa watu na kuniteta Mipi nililo kukosea mpenzi ye Una sasa mpenzi mapenzi yako hasa Yanitia wasiwasi Adhabu nyingi kunizidia ni hurumie Una sasa mpenzi mapenzi yako hasa Yanitia wasiwasi Adhabu nyingi kunizidia nihurumie Nakukanya par le Nuta Jazz Band dans Science Chrono sur France Culture. On avance dans notre émission. Après vous avoir raconté cette controverse dans l'histoire des sciences, il est temps à présent d'ouvrir, comme chaque semaine, notre page archéologique.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
La destruction de la bande de Gaza et l'éradication de sa population par l'armée israélienne se poursuivent de manière inexorable sans qu'une issue semble se dessiner. À l'heure où nous faisons cette émission, l'OMS annonce que 2,1 millions de personnes sont en danger de mort imminente dans ce territoire palestinien écrasé par les bombes et les bulldozers. Quand un présent aussi terrible réclame toute notre attention et une action humanitaire immédiate, se rappeler du passé lointain est-il possible ? Et que peut nous apporter ce regard sur une histoire patrimoniale pour nous rappeler qu'on ne peut effacer ni le présent ni le passé d'un revers de la main. Voilà quelques-unes des questions que soulève l'exposition Trésor sauvé de Gaza 5000 ans d'histoire qui se tient à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Une exposition conçue en trois temps. Un premier temps autour du patrimoine mobilier sauvé de Gaza avec une sélection de 130 objets. Un second temps autour des programmes archéologiques actuels interrompus depuis le 7 octobre 2023. Et une salle proposant une projection de vidéos. Pour cet épisode de l'entretien archéologique, nous nous sommes concentrés avec Elodie Bouffard et René Elter sur cette première grande salle présentant les trésors sauvés de Gaza. Bonjour Elodie Bouffard.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition Trésors sauvés de Gaza 5000 ans d'histoire qui se tient à l'Institut du Monde Arabe depuis le 3 avril et qui durera jusqu'au 2 novembre 2025. Et bonjour René Elter.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, chercheur associé à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, directeur du programme scientifique et de préservation du monastère de Saint-Hilarion à Gaza, et vous êtes coordinateur scientifique du programme INTICAL, qui signifie, si je ne dis pas de bêtises, transmission en langue arabe, un programme coordonné par l'ONG Première Urgence Internationale. Merci beaucoup à tous les deux de nous permettre de faire cette visite de l'exposition Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire. On va essayer de comprendre ensemble l'importance du patrimoine archéologique de Gaza et d'expliquer comment ce patrimoine traduit la longue et riche histoire de ce territoire d'une superficie de 365 km² situé au bord de la mer Méditerranée à la croisée de plusieurs mondes. La bande de Gaza est soumise depuis les massacres du 7 octobre 2023 à des bombardements systématiques et des destructions massives opérées par l'armée israélienne, décimant en premier lieu bien sûr la population gazaoui, mais aussi son patrimoine archéologique et architectural. Elodie Bouffard, avant de parler de ce présent terrible et de ses conséquences sur la mémoire archéologique de Gaza, j'aimerais que vous nous décriviez l'origine de cette exposition et que vous nous disiez le sens qu'a cette exposition 25 ans après la première exposition sur l'archéologie de Gaza, ici à l'Institut du Monde Arabe.
Oui, c'est vrai que cette exposition, en fait, elle vient 25 ans après un grand projet qui s'était tenu en 2000 à l'Institut du Monde Arabe. Et elle a pris corps à l'Institut du Monde Arabe en quelques mois, parce que nous connaissions bien effectivement l'Autorité nationale palestinienne, mais également le Musée d'art et d'histoire de Genève, qui aujourd'hui est ce musée-refuge des près de 524 pièces qui sont bloquées depuis 2007 au port franc de Genève. Et c'est ces longues amitiés qui nous ont permis en fait de monter ce projet en quelques mois, puisqu'il a tout simplement été développé dans l'urgence au regard de la situation actuelle et également dans le cadre des bombardements systématiques de toute la région, mais également qui ont touché Beyrouth et qui nous ont empêchés de monter un grand projet archéologique aussi sur la cité de Byblos. Donc c'est finalement le besoin de témoigner, en tout cas, d'une histoire qui s'efface ou d'une histoire qu'on ne veut pas regarder, qui nous a obligés à monter ce projet et ces longues amitiés qui nous ont permis de la réaliser.
C'est-à-dire que là, toutes les œuvres et les objets qu'on va voir dans cette exposition sont d'une certaine façon, elles aussi, en exil et sont dans une espèce d'espace intermédiaire.
Exactement. Et d'ailleurs, le projet s'est bâti sur finalement ce déracinement, cette incapacité de revenir dans leur terre. Donc en fait, la collection qui se constitue de plus de 500 pièces, comme je le disais plus tôt, s'est mise en place en deux temps. Donc un premier temps avec des pièces archéologiques qui sont arrivées en 2000, donc, qui ont été exposées à Lima, environ la moitié de la collection, qui sont vraiment issues des premières fouilles franco-palestiniennes qui se sont déployées entre 1995 et 2000. Et une deuxième partie de collection qui vient là, à la base d'un collectionneur privé qui a donné sa collection à l'Autorité nationale palestinienne, qui est venue en Europe cette fois-ci en 2007 pour un grand projet à Genève. Et ensuite, elles ont été agglomérées, en tout cas, elles se sont constituées en collection unique à partir de cette période-là, parce qu'elles ont été bloquées et qu'elles ont été dans l'incapacité de rentrer à Gaza.
René Elter, on fait des fouilles archéologiques à Gaza depuis un moment déjà. Quels pourraient être les grands repères chronologique, temporelle de cette histoire des fouilles archéologiques de Gaza?
Alors c'est une archéologie qui commence à la fin du 19e siècle. Une découverte fortuite dans la vallée du Wadi Raza, découverte en fait d'une statue, une représentation de Zeus Marnas, fouille menée par les Ottomans. Statue aujourd'hui visible au musée d'Istanbul. Après, c'est une archéologie qui continue dans les années 20-30 avec des fouilles menées par les Britanniques, entre autres sur le site de Tel El Ajoul, toujours dans le même secteur du Wadi Razak, qui est vraiment le centre de développement. C'est là qu'en fait que les premières communautés vont s'installer et vont urbaniser la bande de... En tout cas, ils vont développer une première urbanisation dans la bande de Gaza. Et puis, à partir du milieu des années 90, une coopération qui est mise en place entre la France et la Palestine, coopération dirigée par le département des Antiquités de Gaza et l'École biblique archéologique française, et ouverture de grands chantiers, le chantier du port d'Antédon, à Blachia, au nord-ouest de la ville de Gaza. Un autre grand site également, le monastère de Saint-Hilarion, au cœur de la bande de Gaza, sur le territoire de la municipalité de Nousserrat.
Dans l'exposition, face à nous, sur un très grand mur, il y a, de façon très opportune, une très grande carte qui place Gaza en son centre. Alors, Élodie Bouffard, est-ce que vous pourriez nous aider à placer Gaza sur cette carte du monde méditerranéen dans ces temps anciens, puisqu'on parle, dès le titre de cette exposition, de 5000 ans d'histoire? Quelle importance avait Gaza dans ce monde-là ?
Gaza, en fait, la première fois qu'on entend parler de la ville, on est au deuxième millénaire avant notre ère. On est en fait dans les textes qui ont été conservés en Égypte, donc elle s'appelle Azatou. Et effectivement, c'est d'abord un site qui est né en fait tout simplement de sa situation géographique exceptionnelle, puisque c'est un oasis qui est quand même dans les terres. On est quand même à 3 km hein, de la façade maritime. Et elle a quand même cet accès... vers la Méditerranée. On va dire que c'est plutôt à partir du 8e siècle avant notre ère qu'elle va rentrer vraiment dans le grand cadre commercial de toute la zone. Et c'est là effectivement que cette position, d'abord stratégique, diplomatique, va devenir une chance exceptionnelle pour ce développement d'une cité forte, commerçante et qui va être à la croisée finalement de deux continents, donc l'Asie et l'Afrique, et également avec cette façade méditerranéenne. Nous, ce qu'on a voulu mettre en place, effectivement, c'est de la resituer au cœur de tout ce réseau, puisqu'elle a été vantée hein, pour être au cœur de ce réseau. D'ailleurs, Hérodote, donc en le 5e siècle avant notre ère, parle déjà finalement de cette ville qui a quasiment créé un système urbain, parce qu'il faut imaginer qu'il y a la ville avec ses remparts. Mais autour, il y a tous les espaces où les commerçants arrivent. Et donc, on s'installe autour. Et donc, ça fait quasiment comme un système urbain qui va arriver jusqu'à quasiment le port, et notamment le port d'Antédon, puisqu'on est dans un maillage urbain, finalement, qui s'est mis en place comme ça. Donc, c'est quasiment une agglomération, en fait, commerciale, et qui doit sa richesse, et c'est vraiment ce qu'on voulait montrer, à sa connexion avec son arrière-pays. Voilà. Donc en fait, Gaza, elle est née de sa position exceptionnelle, mais surtout en tant que aboutissement en fait de route caravanière, donc aboutissement de circuit terrestre. C'est pas une puissance maritime, comme on pourrait parler de Byblos par exemple ou autre, parce que effectivement, on n'a pas les forêts pour créer des grands bâtiments, des grands navires. On n'a pas forcément des armateurs. Donc on est vraiment sur une cité qui est ancrée dans son territoire, qui a en plus la possibilité d'avoir une richesse agricole, puisque on a un réseau hydraulique qui est extrêmement proche, donc qui permet aussi de déployer aussi cette production-là. Donc on a toutes les richesses d'Arabie, bien entendu, et les richesses les plus courues, parce que effectivement, l'encens, cette fameuse route de l'encens, elle est emblématique, mais elle est emblématique parce que c'est la richesse du monde. Voilà, elle est dans tous les temples de toute la région, et elle connecte aussi avec l'Afrique, donc c'est aussi l'or, l'ivoire, et également l'Asie plus lointaine, avec l'accès effectivement à toutes ces épices, un peu plus tard avec la soie et le réseau méditerranéen, parce que les liens avec l'Attique sont extrêmement forts. Et Antédon, dont on a parlé, c'est aussi un comptoir grec, bien entendu, qui va se déployer. Et donc on a vraiment cette synapse dans laquelle va se développer effectivement un pouvoir économique, mais aussi un pouvoir culturel très fort.
L'exposition se divise en pans, on va dire, chronologiques. Ça commence par l'âge du bronze et du fer. Si on devait décrire, René Elter, quelques-uns de ces objets qui incarnent bien cette vitalité de Gaza dans les temps anciens, sur quoi se porterait votre choix ?
Sur cette collection d'amphores, sur ces quelques amphores que nous avons devant nous. Elles sont le reflet justement de ces échanges commerciaux avec le monde méditerranéen. Mais je voudrais faire un petit focus sur une de ces jarres, celle-ci que l'on voit ici, qu'on l'appelle.
Qui n'est pas la plus grande de ces jarres.
Non, ce n'est pas la plus grande, mais en fait, c'est celle qui va être la plus utilisée à Gaza. Et d'ailleurs, son nom, c'est Jarre de Gaza. Donc, elle est fabriquée dans la région de Gaza. Quand je dis région de Gaza, c'est au-delà de la limite actuelle. Ça veut dire qu'on a autant d'ateliers de potiers dans le Negev que dans la région d'Ashkelon, que sur autour de Gaza. Alors, c'est une jarre, effectivement, qui est moins grande que les autres qui sont exposées. En fait, elle a une cuve cylindrique qui est caractéristique, et cette cuve, en fait, a une forme d'obus. Et dans sa partie supérieure, en fait, elle a une petite lèvre. Et sous la lèvre, en fait, se développent deux petites anses comme deux petites oreilles. Et puis une autre caractéristique également de cette jarre, en fait, ce sont ces barbules d'argile, en fait, que l'on trouve toujours à la périphérie. Alors cette jarre, elle va se développer dans le temps, entre le 1er siècle et le 8e siècle. Là, on a une jarre, on va dire, d'une taille moyenne. Par exemple, au 8e siècle, la jarre va être beaucoup plus étendue et la cuve cylindrique, en fait, va s'affiner. Ça veut dire qu'en fait, elle va être beaucoup plus haute. Leur fonction, essentiellement transporter le vin de Gaza et sa région. Il faut savoir que les vins de Gaza sont réputés à la période byzantine comme étant les équivalents de vins des îles grecques, entre autres l'île de Chios, ou des vins produits en Campanie, à Falerne par exemple. Donc ça veut dire des vins qui sont réputés dans le monde méditerranéen. Et donc vous avez toute une industrie, hein, on peut dire comme ça, une industrie, un commerce qui va tourner autour de ce vin et de la production en fait de ses contenants. Hein, en gros, c'est un simple contenant qui est caractéristique de Gaza et du coup qui fait aussi la réputation de Gaza. Donc ça veut dire que si on achète du vin dans ce type de jarre, automatiquement ça va être un vin de qualité. Et pour exemple, en fait, on retrouve ces jarres jusque dans le sud en fait de la péninsule arabique, mais on en retrouve également en Gaule et également dans le nord de la Gaule, on en retrouve également dans tout le bassin méditerranéen.
Là, c'est vraiment un objet qui incarne bien toute cette interconnexion dans l'espace méditerranéen et puis aussi le rayonnement d'un espace comme Gaza à cette époque, rayonnement commercial et puis alimentaire d'une certaine façon. Élodie Bouffard, on est entouré de jarres, mais aussi d'objets plus petits, plus sculptés, plus travaillés, on va dire, qui sont présentés dans des vitrines. Quels sont les objets devant nous qui vous parlent particulièrement, qui vous touchent particulièrement ?
Toute cette partie de l'exposition est vraiment construite dans un cadre chronologique et le choix de chacune des pièces a été fait effectivement pour aussi témoigner d'une période, mais également de liens particuliers. Donc chacune des pièces essaye d'apporter en fait un éclairage sur Gaza et ses liens en fait, notamment commerciaux ou culturels. On a essayé aussi de mettre en avant des techniques différentes pour que justement on se rende compte de l'habileté aussi des ateliers ou des choix d'importation que l'on pouvait faire. Donc vous pouvez effectivement avoir du verre, vous pouvez avoir aussi beaucoup d'albâtre, puisqu'on a quand même une relation qui est extrêmement forte avec l'Égypte d'ailleurs depuis le départ, puisque notamment donc, dans le Wadi Raza dont on a parlé un peu plus tôt, ce qu'on découvre essentiellement c'est des cités de l'âge du bronze, même anciens, où on voit bien que ce sont des espaces urbains construits par le pouvoir égyptien pour maintenir en fait cette frontière haute. Et donc on est vraiment dans cette connexion entre une culture cananéenne et une culture aussi égyptienne qui va déployer aussi tout son savoir-faire et rechercher ses objets. Et donc la première vitrine de l'exposition, elle s'est construite justement sur ces temps anciens en montrant en fait les œuvres les plus anciennes et notamment en tout cas une moi que je trouve assez spectaculaire, notamment c'est un manche en fait de poignard qui fait quand même bien 25 cm de long, donc qui est assez monumental, qui est complètement ciselé en fait et qui a été justement trouvé dans la région du Wadi Raza et qui cohabite également avec un magnifique vase en albâtre qui est vraiment en fait une production, on le sait très bien, égyptienne, en plus de très grande qualité par rapport à sa taille, qui était là en fait pour recevoir des ongans très précieux et qu'on peut retrouver également notamment dans les espaces funéraires à la période du bronze moyen. Et donc l'idée c'était vraiment de montrer comment à cette période-là nous avions effectivement une déesse au tambourin, extrêmement touchante, dont on a fait le choix d'en faire l'affiche de l'exposition, voilà, qui va effectivement aussi cohabiter avec ces artefacts issus aussi d'une culture égyptienne qui était présente et qui a construit effectivement aussi les grands sites qui ont été ceux qui permettent aujourd'hui d'écrire l'histoire ancienne de la zone. Et donc on a essayé au maximum de construire justement à chacune des vitrines un développement sur ces interconnexions, sur des périodes en fait proches, pour comprendre justement qu'on a toujours été sur des nœuds culturels, ou alors mettre en avant effectivement des thématiques, donc notamment les liens avec le commerce, avec justement cette sélection de jarres dont René a abordé, ou alors effectivement la connexion entre la mer. Et donc on va voyager avec voilà, des vitrines où on va voir l'albâtre qui va être présenté donc d'origine égyptienne avec justement des morceaux de céramique attique avec un décor justement avec les figures rouges et qui vont permettre justement de montrer la connectivité de l'espace en fait. Voilà, donc
j'en vois une qui n'est pas sous vitrine là, juste à côté de nous.
Oui, elle n'est pas sous vitrine et ça c'est un choix délibéré puisque toute la scénographie a été construite pour être quand même dans un rapport assez frontal avec l'œuvre. Voilà, on a travaillé avec un superbe studio d'architectes qui viennent de Bethléem, donc c'est Elias et Youssef Anastas qui nous ont accompagnés sur ce projet. L'idée, c'était de montrer aussi les œuvres dans un regard, en fait, par rapport à la situation et leur histoire, ce qu'ils ont accepté de faire avec grande amitié, on les remercie. Et donc, on a effectivement cette frontalité avec cette pièce qui est exceptionnelle parce qu'elle est... Elle est remarquablement conservée et elle est extrêmement touchante. Donc on est devant en fait une statuette qui doit faire environ 35 cm de hauteur, qui est intégralement en marbre, qui représente une déesse qui pourrait être associée à Aphrodite ou Hécate. Période romaine ou hellénistique, on a du problématique pour la dater. Mais les deux avaient un temple, en fait, à Gaza, puisque cette Gaza hellénistique et romaine, en fait, elle est connue beaucoup par les textes aussi et par ce qu'il s'y déroulait, puisqu'il y avait des jeux. Donc, comme il y avait des jeux, on sait qu'il y avait toute une structure hein, pour développer aussi bien une culture que accueillir aussi, finalement, l'exemplarité de ces jeux qui vont être iso-olympiques, donc tous les 4 ans. Hein. Donc, on a aussi un descriptif des temples, puisqu'ils ont été intégralement détruits en 402 avec la christianisation forcée dans le cadre du grand mouvement autour de Porphyre, donc en 402. Donc on a le détail exact des temples qui ont été détruits. Donc on sait que ces déesses avaient des temples. Et donc cette statue de 35 cm, donc comme je le disais, elle est en marbre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de marbre à Gaza. En fait, il n'y a même pas de pierre. Donc tout est une importation, ce qui donne aussi une idée de la richesse de la ville, en fait, puisqu'elle était en fait couverte hein, de ces marbres et de ces grandes constructions. Donc elle est touchante parce qu'on voit justement la déesse avec un léger déhanché qui regarde en fait le sol, un peu rêveuse, comme si elle attendait en fait tout simplement une éclaircie en tout cas ou quelque chose advienne pour la sortir de sa torpeur. Elle a en fait cette tunique qui est de voile qui montre complètement ses formes collées à sa peau et elle attend oui effectivement qu'on la redécouvre hein, puisque cette pièce en fait sûrement à partir du 5e siècle a disparu et elle a disparu dans la mer. Il faut savoir que on pourra en parler après mais c'est vrai que la façade maritime de Gaza est en fait un immense champ archéologique complètement méconnu. Et en fait cette déesse pour lesquelles en fait un commanditaire a fait venir le marbre, un artiste artisan de talent en a fait la splendeur qu'elle est, où des milliers de personnes sont venues lui demander des faveurs, a disparu un jour, surtout au 5e siècle, et elle a été repêchée en fait il y a quelques années, tout simplement par un pêcheur au large de Gaza. En la repêchant, il a eu la belle idée en fait de la confier à un collectionneur qui en a pris soin, qui l'a prêté pour la mise en place d'un musée archéologique qui n'a pas vu lieu. Et donc elle est partie à Genève et depuis 2007 en fait plus personne ne l'admire jusqu'à aujourd'hui. Hécate en fait, si on décide que c'est Hécate, c'est un peu donc c'est une des trois déesses de la nuit et en fait c'est aussi une inspiration finalement à la Renaissance. Effectivement, à l'attente de ce renouveau de la Lune. Et donc, c'est aussi un message un peu d'espoir sur la situation actuelle à Gaza.
Ça fait un pont très, très net et très ferme entre ce passé lointain et ce présent qu'on sait terrible. Alors, on n'aura pas le temps de faire la description de tous ces objets. On invite vraiment les personnes qui nous écoutent à venir voir la très, très belle exposition. Il y a au milieu, un peu en majesté, une immense mosaïque. Peut-être on peut quand même en parler rapidement, René Elter. Est-ce que vous pourriez me décrire cette mosaïque qui fait une taille considérable, qui est particulièrement belle, où est-ce qu'elle a été retrouvée et quelle est son histoire ?
Sa taille, en fait, est en lien avec le bâtiment dans lequel elle s'est située, une église. Sa taille est moins considérable. Du coup, si on la proportionne en fait à celle d'une église, on va dire que c'est une église de taille moyenne. Elle représente en fait une série de rinceaux de vignes qui forment des médaillons dans lesquels on a une série de personnages, des animaux et également en fait des personnages, des humains. On a deux traces à deux endroits. Cette mosaïque est une allégorie en fait du jardin du paradis. Il faut s'imaginer qu'alors aujourd'hui la pièce qui a peut-être disparu, la partie lacunaire du pavement. Dans la partie lacunaire du pavement, on devait avoir un élément, vraisemblablement une jarre, de laquelle sortait l'ensemble de ces rinceaux de vigne. Et là, on est dans une allégorie du Christ. C'est-à-dire que la jarre étant le Christ, les rinceaux de vigne étant la propagation de la bonne parole. Et on y ajoute une série d'animaux, parce qu'on est, voilà, justement, on a ce lien aussi avec la parole divine qui permettra à un moment donné d'accéder également au paradis.
Cette exposition, on le disait, présente l'histoire matérielle de Gaza depuis l'âge du bronze jusqu'à la période musulmane. On est évidemment obligé de parler de ce qui plane comme menace sur le patrimoine historique archéologique de Gaza. Aujourd'hui, Élodie Bouffard, évidemment, les bombardements et la guerre menacent directement ce patrimoine. Est-ce qu'on a une idée de ce qui est disparu à jamais, des effets de ces bombardements actuels sur ce patrimoine archéologique de Gaza qui est sans cesse menacé et par la pression foncière et par la guerre, quand la guerre arrive?
Oui, alors aujourd'hui, en fait, il est quand même difficile de dresser un bilan. De toute façon, on n'est pas du tout à l'heure des bilans. D'autant plus que la situation humaine est plus que catastrophique. Et donc, bien sûr, nous impose, un, de la retenue, et deux, tout simplement aussi, ne fait pas du patrimoine la priorité. Néanmoins, il y a d'abord l'UNESCO qui travaille par le biais d'images satellitaires, qui nous tiennent au courant régulièrement, qui nous envoient les dernières mises à jour, et également bien sûr des chercheurs, et notamment là, je tiens à remercier le collectif Gaza Histoire, donc une association de chercheurs français, suisses et palestiniens, qui travaille notamment à la cartographie de ce patrimoine en danger en lien avec les bombardements, les retours aussi du terrain et également les croisements avec l'UNESCO. Donc cela nous donne aujourd'hui donc des éléments qui bien sûr évoluent. Nous avons travaillé donc avec ce collectif et avec l'UNESCO pour mettre en place un cadre d'infographie qui évoluera tout au long de l'exposition dès que nous avons des données à jour. Les dernières données en tout cas sur lesquelles on peut vraiment communiquer datent de la fin mars. Aujourd'hui, il y a en tout cas Gaza Histoire en train de publier sa nouvelle carte dynamique qui sort cette semaine. Voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, les chiffres en cours encore la semaine dernière étaient vraiment sur les 365 monuments. Donc on peut qualifier avec à valeur historique ou archéologique. 150 ont été, on va dire, auditionnés. Et sur ces 150, plus de 94 ont connu des dommages, pour certains complets et pour d'autres à déterminer, puisque dans l'incapacité pour beaucoup de se rendre sur place, il est impossible de savoir l'étendue des destructions qui dépendent effectivement également des charges et de tout ce qui s'est passé autour aussi, parce qu'il y a bien sûr les dégâts autour et il y a aussi les dégâts dus également à l'abandon et aux besoins aussi tout simplement des habitants de Gaza de se protéger et de trouver aussi des besoins de première subsistance. Donc tout ça est un cadre un peu global qui donne encore des chiffres qui sont à prendre avec avec beaucoup de précautions, mais qui permettent en tout cas déjà d'avoir une première évaluation de terrain.
Comme le rappelait Elodie Bouffard, René Alter, c'est important de rappeler que voilà, la priorité c'est la vie, c'est les humains qui habitent aujourd'hui à Gaza. Si on doit faire un lien entre cette population de Gaza et ces objets qui nous entourent, quel est l'intérêt porté par cette population de Gaza à ce patrimoine matériel, historique? Est-ce que c'est un intérêt fort ou bien est-ce que le quotidien violent, brutal, terrible de cette population fait qu'elle se détourne de ce passé-là?
Alors c'est une vaste question. Depuis un an et demi, il est évident que le patrimoine n'est plus la priorité. Mais avant, il y avait un fort intérêt en fait, de la communauté à connaître ce patrimoine, à pouvoir l'apprécier, à pouvoir le visiter. Et de nombreux projets en fait, se sont mis en place, entre autres avec un programme qu'on a développé avec l'ONG Première Urgence Internationale et l'École biblique archéologique française de Jérusalem, qui se nomme Intikal, Intikal en arabe voulant dire transmission. L'idée, en fait, pour nous, était de pouvoir transmettre au public ce patrimoine, quel qu'il soit, d'une part, et puis d'autre part aussi de mettre en place des cycles de formation pour des jeunes diplômés en archéologie ou en architecture et leur permettre de devenir, en fait, des professionnels du patrimoine. Alors, il faut savoir que depuis octobre 2023, ce sont ces jeunes qui interviennent sur les différents sites lorsqu'il y a besoin. Ils referment une porte, ils réenfouissent un vestige, ils récupèrent des objets, ils posent des bâches, des grillages. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir pallier en attendant mieux. Donc, ils sont sur place, ils sont très importants. Elodie évoquait à l'instant, en fait, le caractère humain. Aujourd'hui, sans eux, on ne pourrait rien faire. Donc aujourd'hui, le monument à vraiment préserver, ce sont eux, avant tout. Parce qu'ils seront là demain, le jour où il y aura un cessez-le-feu, ils pourront intervenir. Et nos différents partenaires, d'ailleurs, continuent à nous soutenir dans ce sens, justement pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible.
Elodie Bouffard, pour conclure cet entretien archéologique, j'aimerais qu'on fasse un pont justement entre cette exposition qui a quand même un parti pris politique évident, qui nous ramène via le passé au présent. Quel pont on peut établir entre ce passé matériel sauvegardé et ce présent de Gaza? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est difficile.
Ce qu'on peut dire, c'est que on ne peut pas détourner les yeux, on ne peut pas oublier une histoire, on ne peut pas effacer des mémoires, on ne peut pas essentialiser un peuple. Et en fait, l'archéologie, mais également l'expression des personnes qui se battent tous les jours pour qu'on n'oublie pas cette histoire-là et qu'on n'oublie pas cette beauté-là, qui en font leur fierté, en fait, méritent tout simplement qu'on prenne le temps de regarder et de s'y intéresser et de ne pas, d'un revers de main, en fait, évacuer 5000 ans d'histoire, des millions de personnes qui sont les héritiers, tout simplement, aussi, de cette grande histoire et qui, pour beaucoup, s'en revendiquent et pour certains qui se battent, malgré les bombes, pour, justement, aller protéger ce patrimoine. L'archéologie, en fait, elle parle aussi du présent. À chaque fois, à chacune des pièces qui sont présentées ici, il a fallu qu'il y ait en fait une personne qui soit contemporain à vous et à moi, en fait, qui s'y intéresse, qui décide de la protéger. Et c'est vrai que dans une grande partie de ces pièces, il y a le travail d'archéologues et de scientifiques, mais il y a aussi un travail humain de personnes qui viennent pour dessiner, pour tout simplement documenter, parce que documenter, c'est protéger, pour empêcher aussi que tout ce patrimoine disparaisse aujourd'hui sous les bombes, hier sous les bulles d'Ozer ou dans le cadre de marché noir. Donc à chaque fois, c'est une activité humaine, voilà, et très contemporaine qui tient justement à préserver et surtout à transmettre pour qu'on ne les oublie pas.
Merci beaucoup Elodie Bouffard, merci beaucoup René Alter de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je rappelle donc que l'exposition Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire est à voir à l'Institut du Monde Arabe à Paris jusqu'au 2 novembre 2025. Merci encore. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, Olivier Bétard et à la réalisation aujourd'hui, Cassandre Puel. Merci à Élise Le aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.